Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer. Et vous, vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur la voix. Adieu les écrans tactiles, la commande vocale peut tout remplacer. Et des acteurs français se sont déjà penchés sur la place de la voix dans notre quotidien. Voix de synthèse, une appli pour chanter juste ou encore un robot pour la microchirurgie des cordes vocales. Nous découvrirons des solutions qui préservent, transforment et améliorent notre voix. À l'origine, c'est une ferme née au XIIe siècle. Aujourd'hui, ce sont des fermes pédagogiques. C'est une entreprise familiale. Les fermes de Galie, l'entreprise qui va bien, merci. Transporter jusqu'à 250 kilos sans voiture et sans effort dans Paris, c'est bien possible avec la remorque électrique de Carriole. C'est la solution et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
39-21, tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Rien ne caractérise plus l'homme que sa voix. Pourquoi la voix, c'est si important? Après la révolution mobile, vive la révolution du vocal. Peu à peu, les assistants vocaux se font une place dans nos vies et l'usage de la voix se généralise dans le monde numérique. Des acteurs français ont trouvé des solutions et Justine, on attend toutes les questions aujourd'hui. Hein.
Bien sûr Elisabeth, comme d'habitude, on vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute, ou alors on vous lit aussi sur europe1.fr ou sur Twitter.
Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, François Geffrier, du service économie d'Europe 1, pour nous éclairer pendant toute l'émission. Notre coach du jour, Gilles Van Der Potten. Bonjour,
bonjour
Gilles.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Reporters d'Espoir et de la France des Solutions. Voix blanche, voix cassée, voix perchée, les métaphores foisonnent pour évoquer la voix. Elle est la porte-parole un petit peu de nos émotions. Et chaque année, plus de 30 000 opérations des cordes vocales sont pratiquées. Redonner la voix à quelqu'un, c'est un geste qui nécessite énormément de précision. Bonjour professeur Laurent Tavernier.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous travaillez au CHU de Besançon et vous avez travaillé sur la création d'un robot endoscopique pour améliorer la microchirurgie laser des cordes vocales. C'est quoi de la micro-robotique ?
Alors, merci d'abord de m'avoir invité pour parler de ce projet. C'est un projet européen qui est maintenant terminé dans sa première phase et qui consistait à développer un authentique robot, parce qu'on a au niveau médical des robots qui sont en fait ce qu'on appelle des maîtres esclaves. C'est une extension de
l'outil chirurgien.
De la main.
Voilà.
Une extension de la main.
Oui.
Et là, on veut mettre de l'intelligence dedans et on détermine des actions à faire et que le robot le fasse en autonomie avec un certain nombre de garde-fous, bien sûr, puisque il s'agit de l'humain.
Alors, la chirurgie, la robotique médicale, ça existe. Hein. Je crois que les chirurgiens, beaucoup de chirurgiens dans plein de chirurgies utilisent le robot, le Da Vinci, hein, je crois. Donc lui, ça c'est un robot avec des bras, avec une caméra endoscopique. Mais vous êtes aperçu que Da Vinci, dans votre domaine d'expertise, dans la chirurgie ORL et notamment pour la chirurgie des cordes vocales, c'est pas suffisant parce que opérer les cordes vocales, c'est compliqué d'accès. Il y a un matériel encombrant. Pour le patient, l'intervention est souvent douloureuse parce que ça nécessite une position un peu particulière. Et c'est comme ça que vous vous êtes dit, on devrait créer, en vous associant avec des confrères, je crois, allemands et italiens, on devrait créer un robot, mais vraiment dédié à l'opération des cordes vocales.
Voilà, donc le Da Vinci dont vous venez de parler est un robot dit universel, c'est-à-dire qu'il est utilisé par plein de spécialités, qui l'adapte plus ou moins à
selon
leurs
l'opération,
besoins, en fonction des interventions. Et là, on s'est dit qu'on va partir dans l'autre sens, on va déterminer notre besoin et en fonction de ça, créer un prototype spécifique pour ce qu'on veut.
Alors, c'est quoi ce prototype? Je crois que le projet a débuté en 2012.
C'est ça, en 2012. Donc, c'est un consortium européen, vous l'avez dit, avec des Italiens et des Allemands. Et des trois côtés, il y avait des médecins, des équipes universitaires médicales et de l'université de sciences, des chercheurs en sciences. Et on partait de deux constats. Le premier, c'était qu'effectivement, pour les patients, la position utilisée principalement est délicate et parfois impossible parce qu'il faut mettre la tête en extension complète, un peu comme un avaleur de sabre, pour pouvoir, par voie naturelle, par la cavité buccale, accéder aux cordes vocales. Mm-hmm. Donc ça, c'était pas pratique pour eux. Et la deuxième, c'était pour avoir le plus grande précision, pour être le plus préservateur au niveau des cordes vocales, il fallait être au plus près. Or, on avait des instruments, Da Vinci approchait un petit peu, mais ce qu'on appelle le gold standard, c'est d'opérer de l'extérieur où on est à 40 cm des cordes vocales quand on opère avec un laser et un microscope.
Et là, vous lui avez rajouté une forme d'intelligence, c'est ça ? C'est-à-dire que vous lui donnez des ordres et lui, il est capable d'exécuter les gestes de manière autonome.
Voilà, donc on fait rentrer ce robot dans la cavité buccale, dans la gorge, dans au-dessus des cordes vocales.
Gorge, mm-hmm.
C'est ce qu'on appelle un robot snake, serpent.
Un petit peu serpent,
oui. Serpent, voilà, qui va se placer. Et tout est concentré à l'extrémité de ce robot qui, effectivement, détecte la zone à traiter, identifie la pathologie et on lui donne des zones à préserver, d'autres à traiter et par un système laser à la fois de détection
optique. Grâce à une caméra aussi.
Et une caméra à proximité, c'est une caméra tridimensionnelle qui nous redonne le relief et qui est censée, puisque pour l'instant ce n'est qu'un prototype, est censée détruire la tumeur, qu'elle soit bénigne ou cancéreuse.
Pour l'instant, vous l'avez dit, ce n'est qu'un prototype, mais ça donne énormément d'espoir pour toutes celles et ceux qui doivent se faire opérer des cordes vocales. Que dit notre coach Gilles Van Der Potten?
Le coach s'interroge, il se demande à quoi s'applique cette chirurgie des cordes vocales. J'ai lu qu'elle était liée souvent à des lésions cancéreuses liées au tabac. Mais j'imagine qu'il y a d'autres applications. Est-ce que c'est des chanteurs, clients?
Par exemple, ça pourrait être des chanteurs. Hein. C'est souvent des professionnels de la voix qui utilisent mal leur voix parce qu'ils n'ont pas été coachés. Ils n'ont pas appris à utiliser leur voix. Et la mauvaise utilisation de la corde vocale crée des pathologies à ce niveau-là. Et d'autres peuvent être spontanées ou générées par le tabac. Le tabac ne génère pas que des cancers.
François, je crois que vous avez trouvé un autre exemple de médecine dédié justement à la réparation des cordes vocales.
Oui, ce sont les travaux du professeur Jean-Paul Marie du CHU de Rouen. Vous
connaissez
Bien sûr.
Vous le connaissez. Il soigne les paralysies du larynx quand les deux cordes vocales sont immobiles. Le terme, c'est la réinnervation laryngée. Alors ça, c'est le jargon, mais en fait, ça paraît assez simple quand on l'explique plus simplement. C'est rebrancher les nerfs pour refaire fonctionner les cordes vocales. Alors ce professeur, il fait une quinzaine d'opérations par an. Il a mis 20 ans de travail pour en arriver là. Les personnes qu'il soigne ont souvent des problèmes respiratoires et n'avait jusqu'à présent comme solution la trachéotomie, l'élargissement du larynx au laser. Son opération, elle dure 6 à 8 heures et on ressent une amélioration vocale au bout de 3 mois. Est-ce que ce type d'opération pourrait s'appliquer avec votre robot pour être plus simple ?
Non, pas du tout.
Deux choses très différentes.
Oui, ça n'a rien à voir.
Puisque... Vous, ça dure beaucoup moins longtemps que 6 à 8 heures.
D'intervention,
avec le robot,
oui, ça va plus vite, c'est moins d'une heure d'intervention.
Ah,
et formidable. On intervient dans la cavité laryngée, par la bouche, la gorge.
À l'intérieur.
Alors que le nerf est en dehors du larynx et lui, il intervient par l'extérieur pour aller chercher le nerf.
Alors, vous avez présenté un prototype en 2016. Comment en France, on finance un tel projet ?
Mais ce n'est pas en France, justement.
Ah, mais c'est bien dommage.
C'est l'Europe.
C'est un financement européen.
Parlons d'Europe, justement. On a du mal parfois à trouver des illustrations concrètes de ce à quoi servent les financements européens. Là,
en matière
scientifique, c'est assez exemplaire.
C'en est un concret, effectivement. Tous les ans, il y a un grand nombre de projets européens qui sont forcément dans un consortium international qui est constitué pour l'occasion, qui répond à cet appel à projet et qui, si le projet est intéressant, a des débouchés, est financé par l'Europe avec des sommes qui sont conséquentes. Le financement de ce projet sur un peu plus de 3 ans était 2,6 millions.
Et l'objectif, je crois que c'est de monter une start-up justement, de créer une entreprise autour de ce robot.
Alors, c'est pas un objectif, c'est quelque chose qui arrive. Il y a plusieurs start-up qui peuvent être faites dans ces projets de recherche. Et en ce qui concerne Besançon, la fac de sciences avec qui on travaille, puisque le consortium international a éclaté, on n'a pas continué à travailler avec nos homologues européens. La fac de sciences a mis en place, avec un doctorant qui a travaillé sur tout le projet, une start-up qui va continuer ce prototype avec la partie française.
Il a un nom, ce robot ? Parce qu'on l'a...
Non, il est...
pas enfin, encore.
Il a le nom du projet pour l'instant, oui. Il s'appelle MicroRALP.
On reste ensemble, on continue à parler des solutions françaises pour préserver, mais aussi pour transformer notre voix.
Il est 13h10.
Europe 1. Elisabeth Assayag.
Chanter toujours juste comme les chanteurs professionnels, c'est ce que propose une application française. Restez avec nous. Vous êtes avec Elisabeth Assayag pour La France Bouge sur Europe 1 et jusqu'à 14h, on vous attend au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1 pour parler de la voix. Comment préserver, transformer et améliorer notre voix? Eh bien, c'est la question qu'on se pose ce mercredi.
Et oui, et chanter juste et se prendre pour un chanteur professionnel devant son miroir, on en a tous un petit peu rêvé. Eh bien, c'est possible grâce à vous, Sébastien Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Sizou. Sizou, c'est C-I-Z-O-O. Alors, grâce à Sizou, donc le nom de votre application, on chante juste, on peut ajouter des effets sur notre voix, partager notre vidéo sur les réseaux. Alors, je précise que c'est d'abord une appli pensée pour des ados. Hein.
Oui, voilà.
Alors, comment ça a commencé?
Bah, en fait, déjà, merci de me recevoir et de me permettre de me présenter Sizou. En fait, Sizou, ça a commencé, on était trois colocataires qui avaient envie de créer une boîte et on était musiciens amateurs. En école de commerce, on avait la possibilité, en fait, pendant notre dernière année, de créer une boîte et on a voulu créer quelque chose autour de la musique pour... permettre à tout le monde de créer facilement
la musique accessible. Vous étiez à voilà. Lyon, hein, je crois, quand ça a commencé.
On était à Lyon, on a un quatrième associé qui nous a rejoint. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que le seul instrument que tout le monde possède, le plus simple, c'est la voix. Et qu'on a tous des smartphones aujourd'hui qui, en fait, sont un formidable concentré de technologie qui permet d'avoir un petit studio d'enregistrement dans sa poche. Donc, en fait, qu'on allait pouvoir faire chanter les gens.
Donc, vous avez lié le smartphone et la voix.
On a lié le smartphone et la voix. Et après, en fait, à force de tester des choses, au début, on posait juste sa voix sur de la musique. Après, on a rajouté les paroles parce qu'en fait, les gens, le plus simple, c'est le karaoké
oui,
au final.
Oui, basique, oui.
Et l'ingrédient qui manquait et qui a fait que Sizou a commencé à vraiment prendre son identité, c'est une technologie qui s'appelle l'autotune, en fait, qui vous corrige votre voix et qui vous permet de chanter juste. C'est quelque chose qui est en fait utilisé par la plupart des stars dans les studios d'enregistrement.
Donc vous êtes en train de nous dire que ce ne sont pas leurs vraies voix aux stars dans...
C'est un peu de la triche.
Vous cassez tous les mythes.
Alors pour nous, c'est pas vraiment de la triche, mais c'est plutôt une manière de... par exemple, pour les gens qui utilisent l'application, c'est vraiment une manière de se décomplexer avec la technologie en fait, sur sa voix. Et c'est quelque chose que tout le monde utilise dans les studios. Pas toutes les chansons ont de l'autotune, mais beaucoup de chansons ont de la correction vocale. Mm-hmm. Parce que parfois, on ne chante pas toujours juste pour avoir un résultat pro. Et nous, on permet aux gens d'avoir un résultat pro. Du coup, ça libère leur créativité.
Bah oui, ça, ils se sentent bien. Donc, vous avez décidé de créer Sizou en 2015. La première version est sortie en 2017. Alors, concrètement, comment ça marche si je télécharge Sizou sur mon téléphone?
Concrètement, donc, vous choisissez la musique sur laquelle vous avez envie de chanter, mm-hmm. comme dans un karaoké. Et vous vous filmez en fait en train de chanter sur cette musique-là. Mm-hmm. C'est un format court parce que nous, justement, pour pouvoir partager facilement à ses amis sur les réseaux. Et ensuite, je choisis des effets. Donc en fait, qui corrigent ma voix, qui sont inspirés de des effets utilisés par mes chanteurs préférés. Donc, par exemple, dans le rap aujourd'hui, peut-être vous avez entendu parler de PNL ou qui ont un effet d'autotune avec une réverbération, quelque chose qui fait que c'est planant. Donc nous, on rajoute ces effets-là. Voilà, on peut choisir différents types d'effets qui sont inspirés de ceux qu'utilisent les stars aujourd'hui.
Alors nous, justement, dans l'équipe de La France Bouge, on a demandé à l'un de nos collaborateurs de tester Sizou. Comme ça, pour nos auditeurs, ils vont pouvoir se faire une idée de ce que c'est. Et voici ce que ça donne. On a fait sans vos filtres, sans l'autotune. Et après, on écoute.
Chez moi, les forts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles.
Alors là c'est donc une chanson de Céline Dion qui est interprétée par l'un de nos collaborateurs, par Benjamin. Et voilà ce que ça donne avec Sizou.
Chez moi, les forts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles.
Alors, nous, on adore, hein, mais on l'entend, hein, y a quand même une différence.
Oui.
Alors, en l'écoutant, on a eu l'impression que c'était un petit peu robot quand même. Comme,
un peu métallique.
Un peu métallique.
Oui, une voix synthétique, comme... non enfin, on a l'impression qu'une voix synthétique se superpose à la voix authentique.
Oui.
Est-ce que c'est un problème de technologie? Est-ce que c'est un effet recherché? Ou est-ce que la technologie demain permettra peut-être d'avoir un ensemble plus authentique?
Ouais, alors en fait, déjà, ça dépend de l'effet qui est choisi. Nous, par exemple, dans Sizou, on a deux types d'autotune. Un qui s'appelle le vocodeur de phase, donc qui fait une voix plus robotique, qui est parfois un effet aussi recherché, qui s'est popularisé avec des Kanye West, des T-Pain à l'époque, oui. qui, dans la musique, en fait, ont utilisé l'autotune comme un instrument.
Oui.
Et aujourd'hui, en fait, ça permet aussi aux gens de se libérer, en fait. Parfois, en fait, les gens préfèrent ne pas vraiment bien entendre leur voix. Mais il y a aussi des technologies d'autotune qui permettent, et on en a un dans l'application, mais on est en train de travailler pour constamment l'améliorer, qui permettent de ressembler le plus possible à ma vraie voix.
Ah oui, voilà. Sauf qu'on l'améliore un petit peu.
Sauf qu'on l'améliore un petit peu, en fait. Chaque musique a une tonalité. Et si la note que je fais sort de la tonalité, nous, on la descend un tout petit peu pour qu'elle soit pile dans la tonalité. C'est ça, en gros, l'autotune, il prend des petits
c'est
bouts
des
de votre
filtres,
voix. Exactement.
Finalement. Justement, vous êtes en train de nous dire que ça permet de laisser libre cours à sa créativité, hein, de se lâcher tout simplement. Ouais. Justement, François, chanter, ça fait vraiment du bien.
Il ne faut pas bouder son plaisir, ça peut générer de l'endorphine, l'hormone du bonheur, donc ça détend, on se concentre sur son souffle, ce qui peut être un vrai exercice musculaire. Je verrai ce qu'en dit le docteur un peu après. On évacue le stress, plus on pratique, plus on gagne en confiance en soi. Le chant, c'est aussi révéler une part d'intimité, c'est parfois assez intime de chanter. Donc chanter, ça peut être utile pour vaincre sa timidité, prendre la parole en public. Et puis les vibrations des cordes vocales se répercutent, paraît-il, au niveau de la gorge, du nez, du dos. C'est presque un mini-massage, selon le site Homeovox. Et puis chanter à plusieurs, c'est une activité de socialisation et aussi d'écoute, de synchronisation avec d'autres. On estime qu'en France, il y a 2,5 millions de personnes qui pratiquent le chant choral.
Alors, ce qui est d'incroyable dans CISO, c'est que la plupart de vos clients sont américains.
Oui, la plupart de nos utilisateurs...
Alors vous êtes français et vos utilisateurs sont américains.
Oui, en fait, c'est aujourd'hui, ils ont entre 13 à 18 ans, principalement un public féminin, mais il y a aussi pas mal... De jeunes garçons du coup qui l'utilisent et ils sont aux États-Unis en fait aujourd'hui une application nous on a mis les chansons en anglais, on a visé ce public là américain qui se filme
évolue.
Un peu plus qui est plus qui est plus enclin à se lâcher qu'en France actuellement, même si la France aussi est une part importante, bien sûr. Mais oui, voilà, on peut toucher très facilement depuis la France, les États-Unis avec une application. C'est possible aujourd'hui, quoi.
Que dit notre coach, Gilles Van Der Potten?
Est-ce que vous savez les motivations qui amène les usagers à utiliser cette application? Est-ce que c'est plutôt pour le côté ludique, pour l'ego, où on a envie de se mettre en scène, et ça correspond peut-être à la période, hein, on a envie de donner une image sublimée de soi-même, puisqu'on poste sa vidéo, il y a même une bibliothèque de vidéos que vous rendez accessible, ou est-ce que c'est pour véritablement progresser dans le champ? Est-ce que vous arrivez à distinguer les raisons pour lesquelles on utilise l'app?
Alors oui, il y en a plusieurs, en fait, déjà. Principalement, déjà, à la base, c'est... Ce qu'on vend, nous, c'est le fait de chanter juste. Donc les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est juste... ils sont contents de s'exprimer, de chanter et de pouvoir avoir une plus belle voix. Enfin, c'est le truc de base. On chante tous dans notre douche. Et, par exemple, dans notre douche, vous savez, il y a de l'écho, donc on a l'impression qu'on chante un peu mieux. Puis après, les gens qui nous entendent, ils ne pensent pas forcément la même chose. Là, déjà, c'est juste se sentir bien, en fait, en chantant, comme vous l'avez dit, justement.
François, oui.
Et puis après, il y a beaucoup de choses sur le côté social, parce que si je choisis une musique d'amour et que je fais une déclaration à quelqu'un en musique, en me filmant avec une belle voix, c'est tout de suite beaucoup plus marrant. Enfin, il y a quelque chose où on veut partager aux gens.
Oui, c'est un message, hein, tout simplement, qu'on a envie de faire partager.
C'est un message, une émotion qu'on transmet aux autres. Quoi.
Vous dites que c'est ce que vous vendez, mais elle est gratuite, l'appli.
Oui, ce qu'on vend en termes
de concept.
Voilà.
On reste ensemble sur Europe 1 à parler de la voix et des solutions françaises autour de la voix.
Il est 13h20.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Reproduire une voix, c'est un nouveau marché qui intéresse les marques. On en parle dans un instant. De 13h à 14h, vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag. Elisabeth qui est entourée d'invités aujourd'hui pour parler de la voix et qui vous attend, vous aussi bien sûr, pour en débattre sur Europe1.fr ou au 3921. Et la voix, c'est le nouveau marché vers lequel se tournent les marques. Nous assistons à l'émergence de tous les assistants vocaux, hein, Google Home, Amazon Echo, pour s'en rendre compte. Et pourtant, des Français basés dans les Côtes d'Armor n'ont pas attendu les géants pour se lancer sur ce marché. Bonjour Philippe Vinci.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Nous aussi, nous sommes ravis d'être avec vous en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur général de Voxygène. Voxygène, c'est une entreprise spécialisée dans la création de voix de synthèse. Alors, d'abord, je vous propose d'écouter une voix de synthèse que vous connaissez tous certainement.
Bonjour, est-ce que vous reconnaissez ma voix? Je suis sûre que vous l'avez entendue quelque part. Attention! Le train à destination du vocal va partir. Toutes les voix de Voxygène sont priées d'embarquer.
Voilà, Gilles l'a dit, hein, c'est Simone, la célèbre voix de la SNCF que vous avez réussi à reproduire. Donc là,
à digitaliser.
À digitaliser. Mm-hmm. Fini donc le temps où la comédienne, hein, Simone Hérault, devait enregistrer toutes les destinations des trains. Vous faites comment ?
Comment ça marche, la,
bah comment ça créer marche, une voie de synthèse ?
En fait, c'est une solution informatique, hein, qui va transformer, qui va générer de la parole à partir de n'importe quel texte. Donc on part bien entendu du texte, on va faire un traitement linguistique de ce texte, on va l'analyser, et puis ensuite avec de l'acoustique, avec du traitement du signal, on va générer un son qu'on va entendre sur des haut-parleurs. Donc il faut imaginer ça comme une sorte de jeu de domino, où on va assembler des tout petits éléments de voix, les uns à la suite des autres, on appelle ça de la concaténation, et puis ensuite, donc ces petits éléments, on appelle ça des diphones, c'est des combinaisons de phonèmes qui constituent la voix humaine.
Mais
donc,
vous partez d'un texte, vous partez pas d'une
voix ? On part toujours
d'un
texte, on part d'un texte.
Alors, existante.
On transforme du texte en parole, effectivement, donc c'est à la fois de la linguistique et de l'acoustique, et de l'informatique, il y a les trois piliers.
Alors l'aventure a commencé en 2011. Hein. Au début, c'était des anciens salariés d'Orange qui, eux, mettaient au point une technologie aussi de synthèse vocale. Et en accord avec Orange, donc en 2012, vous avez créé Voxygène. Voxygène prend en compte l'intelligence artificielle pour produire cette voix de synthèse.
Alors, on rajoute effectivement des méthodologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine sur des bases de techniques neuronales. Mais effectivement, à l'origine, c'était de la concaténation de sons et de voix humaines.
Alors avec cette intelligence artificielle, vous avez aussi récemment pu créer, enfin recréer, je ne sais pas comment vous dites, hein, la voix de Louis XIV.
Bonjour le monde, je m'appelle Louis XIV. Il m'est donc plaisant qu'avec Voxygène, ma voix parle désormais sur Europe.
Mais comment vous êtes dit Louis XIV a dû avoir cette voix ?
C'est-à-dire c'était un projet au moment de la sortie donc, de la saison 3 de Versailles, avec l'agence BETC. On a reçu un cahier des charges pour faire un assistant vocal un peu différent des autres, c'est-à-dire avec Louis XIV. Les internautes pouvaient poser des questions via un compte particulier de Louis XIV, donc avec du texte. Et effectivement, Louis XIV répondait avec une voix, alors que s'il répondait avec du texte, on perdait un petit peu le côté émotionnel, d'où vient ce texte, etc. Et donc, on avait un petit cahier des charges pour recréer cette voix. Donc, sur les portraits, on voyait un cou allongé, donc des cordes vocales plus longues, donc une voix plutôt grave. C'était Louis XIV en fin de vie.
Donc, il y a des corpulences qui
voilà,
aussi,
exactement. Il y a de la biométrie qui permet de donner certaines indications sur le timbre de la voix. Et puis après, ce qu'on nous a demandé, c'était un peu rigolo, en fait, c'était que c'était en fin de vie. Le journal du médecin de Louis XIV disait qu'il avait perdu pas mal de dents. Il avait des trous dans le palais. Donc, on nous a demandé des raclements de gorge.
Mais alors là, voilà, vous faites appel à des médecins pour pouvoir...
Alors, il y avait effectivement des ORL qui ont travaillé sur ce cahier des charges pour essayer de nous donner des pistes. Et à partir de ça, en studio d'enregistrement, on a utilisé un voice talent donc, qui a reproduit ces petits rires narquois, ces petits raclements de gorge qu'on peut écouter dans la voix de Louis XIV.
Que dit notre coach, Gilles Van Der Potten ?
C'est assez impressionnant. Mais ce que je remarque, c'est que cette voix, elle est assez posée, elle est grave, elle est assez contemporaine. Or, j'ai entendu dire, d'après des gens de théâtre ou même des historiens, qu'à l'époque, les intonations, les accents n'avaient rien à voir avec nos voix contemporaines.
Oui, alors
est-ce qu'on est sûr qu'elle est authentique, cette voix ?
Non, on ne peut pas être sûr qu'elle soit authentique, non. En plus, on a utilisé donc, du français moderne pour communiquer avec les internautes. Donc, ça, effectivement, ça doit en plus... modifier la perception que l'on a de ce qu'aurait pu être la voix de Louis XIV. Oui.
Alors, avec ces voix-là, vous vous adressez essentiellement aux marques aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, comme on vient de voir et d'écouter, la voix, elle véhicule quand même des émotions par rapport au texte. Hein. Dans le texte, on est obligé de rajouter des émoticônes pour donner un sens à ce qu'on écrit. La voix, pas besoin. Avec la tonalité, la prosodie que j'utilise, elle fait passer les émotions. Et donc, la voix devient, pour les marques, une sorte de logo du futur. On fait attention à son logo,
c'est
à sa marque.
Logo.
C'est le nouveau logo. Imaginez dans les enceintes connectées, vous avez mentionné les Google Home, les Amazon Echo, etc. Vous avez des voix différentes pour les mêmes services. Des fois, vous avez même la même voix de Google pour des services aussi différents que Oui SNCF, Mythic, Monoprix. Et donc là, en recréant sa propre voix, en imaginant quelle est la voix qui va représenter le mieux les valeurs de la marque.
C'est la nouvelle identité visuelle.
C'est une identité, effectivement, donc sonore. Donc, c'est à la fois la voix et le son.
Mais quel est l'enjeu pour les marques ?
Les marques, c'est de la différenciation. Nous, on reprend une citation d'Albert Einstein, qu'il n'avait probablement pas dit à ce moment-là, dans ce contexte-là. « Be a voice, not an echo », donc « Soyez une voix et non pas un écho ». Alors, toute ressemblance avec une enceinte connectée, bien entendu, fortuite. Et donc, on détourne un petit peu cette citation. Ce que voulait dire Albert Einstein, c'est « Soyez votre propre voix ». Différenciez-vous de la foule, restez droit dans vos bottes. Et c'est un petit peu ce que les marques veulent faire, se différencier des géants de l'Internet et de conserver leur propre identité. La voix fait partie de l'identité vocale et sonore des marques.
On continue à parler de la voix et des solutions françaises pour la préserver, l'améliorer et la transformer.
Il est 13h28.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend. Nous sommes en direct. Vos témoignages, vos questions, nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous retrouvez Elisabeth Assayag avec La France bouge sur Europe 1. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la voix, comment la préserver, la transformer ou encore même l'améliorer. Si vous avez des questions ou des solutions, même, on vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et nous sommes toujours avec le coach du jour, Gilles Van Der Poten, directeur de Reporters d'Espoir et de la France des Solutions, avec François Geffrier du service économie d'Europe 1. Et pour en parler, Philippe Vinci, le directeur général de Voxygène, une entreprise spécialisée dans la création des voix de synthèse. Sébastien Guil, le cofondateur de CISO, une application pour vous faire chanter plus juste. Et le professeur Laurent Tervernier du CHU de Besançon qui travaille sur la création d'un robot qui améliore la microchirurgie laser des cordes vocales. Je voulais vous demander, François, les assistants vocaux et les enceintes connectées, on parle de voix depuis tout à l'heure, mais ils rentrent chez nous, hein, ces assistants vocaux.
C'est un marché qui est en plein boom, c'est simple, chacun des GAFA, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, a le sien. Il y a Amazon Echo à laquelle vous faisiez référence, il y a le Google Home, Apple HomePod et bientôt Facebook Portal qui va débarquer. En moyenne, on sait que les utilisateurs ont 39 ans. En France, il y a 1 700 000 utilisateurs qui sont déjà actifs. La plupart sont d'origine sociale plutôt aisée. Les usages qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement écouter de la musique, écouter des podcasts, écouter la radio en direct, ce qui est pas mal.
Oralement.
Voilà, on dit « Ok Google, mais Europe 1 », et là on entend tout de suite Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag. Ou alors, quelles sont les dernières informations? Et là on entend le journal de midi et demi d'Europe 1, ce qui est pas mal aussi. Il y a la question sur la météo, on peut aussi faire des recherches sur Internet, demander la hauteur de la Tour Eiffel ou une question très simple dont on peut trouver la réponse. Et en revanche, ce qui peine à se développer pour l'instant, c'est le shopping, c'est faire sa liste de courses, ce qui est pourtant possible en théorie avec Monoprix, mais nous on l'avait testé à Europe 1 et c'était pas encore extrêmement efficace. Commander un taxi ou une pizza, ça c'est encore assez peu développé
mais
dans
ça,
le monde.
Mais ça pourra y venir.
Ça pourra y venir, on est en train de s'y mettre. Il y a même des banques, Boursorama pour ne pas la citer, qui permettent de faire un virement, ou de préparer un virement plus exactement, en le commandant à la voix, à son enceinte. Juste dans le monde, il y a 60 millions actuellement d'enceintes connectées, il y en aura 90 à la fin de l'année, donc c'est plus 50%, c'est un marché vraiment qui bouge.
Eh ben justement, Justine, je crois qu'on a reçu des questions sur Twitter dans ce sens-là.
Exactement, avec le hashtag Europe 1. Marc nous dit « J'ai fait l'acquisition de l'assistant vocal d'Amazon Alexa. Je le trouve d'une précision incroyable. Pensez-vous, comme moi, que nous ne sommes qu'au début de cette révolution numérique ?»
Ah, la révolution numérique à travers la voix. Qui pour répondre à la question de Marc en studio ? Philippe Vinci ?
Moi, je veux bien répondre. Effectivement, on est au tout début. On est au tout début de l'utilisation de la voix comme interface. Et donc, ça laisse présager un futur extraordinaire. Il faut imaginer ce qu'était Internet il y a 20-25 ans. On ne s'imaginait pas ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet. Et aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir une page Internet. La voix, c'est pareil. Tout le monde, il y a une prolifération, on est en train de le voir, d'assistants vocaux. Et prochainement de voice commerce, donc le commerce par la voix. Et cette prolifération, à mon goût, ne peuvent pas avoir la même voix. De toute façon, il va falloir se différencier. Tous les produits vont finir par vous parler, tous les services vont finir par vous parler et il faut tous qu'ils soient différents.
Alors justement,
donc on n'est qu'au début, oui.
Si tout le monde va nous parler, est-ce que finalement, avec votre robot, professeur Tavernier, si on parvient à opérer précisément les cordes vocales et en plus en 3/4 d'heure, 1 heure, est-ce que finalement ça n'a pas commencé à devenir des chirurgies de confort, parce que chacun va vouloir trouver sa propre voix
Alors, je ne sais pas si on peut parler de chirurgie de confort. Le but n'est pas de modifier la voix, mais de conserver la voix de quelqu'un qui a une voix détériorée par une pathologie. Donc c'est plutôt ça. Et pour aller dans le sens du numérique, en fait, la voix devient la nouvelle interface. Et ce qui pourrait me poser question, effectivement, c'est quand on a une identité vocale, est-ce que la pathologie ou l'acte chirurgical que je peux proposer va pas modifier la voix et rompre cette chaîne de la voix avec les applications et d'autres
mais
systèmes.
Mais il y aura Voxygène pour pouvoir la recréer et la retravailler. Que dit notre coach, Gilles Van Der Potten?
Qu'est-ce qui pourrait freiner le développement? Parce qu'on sent que ça va être un développement exponentiel de ces assistants vocaux. Est-ce que c'est la question de la protection des données qui peut faire peur, qui peut créer des réticences?
Pour Sisu, par exemple.
Oui, par exemple. Est-ce que vous stockez les voix? Enfin, vous espionnez pas vos utilisateurs, j'imagine, mais la question se pose quand même.
C'est une vraie question. Ouais. En fait, d'ailleurs, tout ce dont on parle là, ça vient du fait que avec la 4G, avec les débits internet qui permettent de transporter des bouts de voix d'un téléphone à quelque chose d'autre beaucoup plus rapidement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout ça est possible en fait, et ça va augmenter. Et peut-être d'autres choses encore plus tard que la voix. Mais du coup, en fait, c'est sûr que toutes nos données, en fait, nous, dans l'application, transitent des données aussi. Et en fait, heureusement qu'il y a justement des lois aujourd'hui qui permettent de mettre certaines... commencer à régulariser aussi tout ça, parce que c'est quelque chose... Il y a eu des applications type Snapchat, etc., que vous connaissez sûrement, qui ont eu des problèmes parce qu'ils avaient des
sur la protection de la vie privée.
Sur la protection de la vie privée. Donc la voix... il faut qu'il y ait, c'est la politique aussi qui permet de faire ça. Heureusement, actuellement, les marques aussi essaient de, vu qu'elles veulent vendre ça, elles essaient de transmettre ce côté sécurité, mais c'est un enjeu en plus qui va venir avec du coup tout ça, ouais.
Il y a une entreprise française qui s'appelle Snips et qui traite les données qu'elle reçoit en local. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui un Google Home, un HomePod d'Apple, vous dites une phrase, c'est envoyé sur un serveur, l'enregistrement de votre voix est enregistré sur un serveur, c'est traduit sur ce serveur, ensuite ça revient, la réponse revient sur votre appareil et on vous dit, il fait 10 degrés si vous avez demandé la météo. Donc tout ça prend un peu de temps et puis surtout, votre voix, vos données transitent. Alors que l'entreprise Snips, elle traite tout en local. Après la question c'est, est-ce que ça marche aussi bien, est-ce que ça peut reconnaître aussi bien les différentes questions qui sont posées?
Oui, vous les avez reçues d'ailleurs, c'est vrai, Snips. Mm-hmm. Alors, que répondez-vous? Philippe Vinci.
Faire de la synthèse vocale en embarqué, c'est possible. On a entendu la voix de Simone Hérault, donc sa voix digitale, c'est Imode.
La voix de la SNCF.
On l'entend, elle est sur les serveurs de la SNCF, donc c'est à peu près 1200 diffusions simultanées de messages en gare. Mais aussi, on le sait moins, sur les bornes interactives, elle est embarquée à l'intérieur des bornes interactives. Quand vous voulez avoir, pour les malvoyants, ils ont la lecture de ce qui se passe à l'écran. Donc elle est embarquée dans les devices.
Il y a une question aussi que je me pose sur l'aspect authentification, parce que c'est vrai que si on est authentifié par sa voix, si on est reconnu, quelle question se pose, professeur, quand on a la voix cassée, quand on a la voix altérée par une maladie, si jamais notre banque, un jour, veut faire de la biométrie vocale?
Très bonne question.
Non, mais est-ce que notre voix peut être durablement changée, et du coup changer sa signature sonore?
Ah oui, tout à fait. C'est la question que je posais tout à l'heure, effectivement. C'est que la pathologie en elle-même va modifier la voix. Nous, on essaye de la redonner, mais il n'est pas certain qu'en post-opératoire, on ait retrouvé la voix d'avant. Alors, ça peut être catastrophique quand on est professionnel de la voix. Si on est chanteur, ça peut être une catastrophe. Mais comme vous le disiez, sur le plan personnel, si on veut ouvrir sa porte et qu'on demande à une clé numérique « ouvre-toi » et puis que ça ne marche pas, comment on fait? Je ne sais pas.
En tout cas, merci à vous trois d'être venus nous parler de la voix qui révolutionne notre quotidien et nous n'en sommes qu'au début. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
C'est un savoir-vivre avec la nature qui se transmet de génération en génération. Les fermes de Galy et l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
La France bouge continue jusqu'à 14h avec vous, Elisabeth Assayag, et il est temps de s'intéresser à des fermes très nature. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Et oui, parce qu'elle a inauguré il y a quelques jours une ferme urbaine pédagogique. Les fermes de Galy, ce sont 4 fermes, une douzaine de dépôts en France. Bonjour Xavier Leroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le co-président des fermes de Galy. Alors Galy, c'est d'abord l'histoire de la famille Leroux, agriculteur en Ile-de-France depuis 1746. Donc c'est d'abord une histoire de famille.
Oui, c'est une chance d'être encore agriculteur tout près de Paris.
Et vous et votre frère, vous êtes la 4e génération, c'est ça?
Oui, qui avons développé et ouvert nos fermes au public.
Alors, dans votre famille, vous êtes exploitant agricole en Île-de-France depuis le 18e siècle, mais aussi des entrepreneurs. Hein. Très rapidement, vous avez concilié les deux.
Chaque génération s'est adaptée aux besoins du moment, aux besoins du marché. Et pour conserver nos fermes, qui devenaient plus petites parce que l'agglomération grandissait, la métropole s'étendait, nous avons décidé de rester et d'offrir de nouveaux services autour de nos métiers de production.
Alors, c'était quoi au début les fermes de Galie?
Au départ, ce sont des fermes céréalières ou des fermes maraîchères qui fournissaient au 19e siècle et au début du 20e des haricots verts par l'Arpajonnais qui remontait au cœur de Paris par un petit train vers les Halles. C'était aussi des fermes qui avaient des laitiers nourrisseurs qui, depuis la Seine-et-Marne, apportaient du lait frais dans Paris. Puis c'était aussi des fermes céréalières qui faisaient des semences pour développer les variétés les meilleures après-guerre, pour qu'on augmente le niveau de production de l'ensemble de la ferme France.
Et dans les années 60, votre père a voulu faire vivre cette ferme en l'ouvrant au public. Hein, c'était très, très avant-gardiste. Et donc, vous avez ouvert la première jardinerie et la première vente de détail au sein même de la ferme.
Absolument. La ferme de Galie, dans les années 68, a ouvert un garden center à l'époque. C'était très moderne. Et puis ensuite, on a créé dans les années 80 une ferme cueillette.
Donc ça, puis, c'était la plantation de la cueillette en libre service.
Absolument.
Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Ce qu'on trouve aujourd'hui, ça fait 30 ans, on pensait qu'il y avait un effet de mode. C'était en fait plutôt une tendance de fond. Et on a aujourd'hui 50 hectares de légumes et de fleurs et de fruits à cueillir près de Versailles.
Et c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Et aujourd'hui, il y a des tulipes, des champs de tulipes qui, grâce à ce temps frais du 1er mai, sont absolument superbes.
Alors, vous avez depuis toujours tenu un rôle agricole important en région parisienne. Hein. Vous avez été l'une des premières jardineries de France en 1995. Vous avez ouvert une ferme pédagogique à Saint-Cyr-l'École. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Hein. Après, 10 ans après, en 2005, vous avez ouvert aussi une ferme à Sartrouville.
Absolument.
Et là, il y a quelques jours, votre troisième ferme urbaine pédagogique à Saint-Denis.
Absolument.
3,5 hectares.
Un vrai défi, la dernière ferme de Saint-Denis, l'histoire du maraîchage et ce qu'on appelle le maraîchage intensif des couches chaudes, dont un tas de sachants dans le monde entier s'inspirent, réécrivant des livres sur la permaculture, hein, qui est en fait l'histoire des contre-plantations, savoir mettre plusieurs espèces sur un même mètre carré. Alors, au 19e siècle, on les mettait sous cloche, sous les couches de fumier, pour pouvoir faire ce qu'on appelle le travail de maraîcher primeuriste, pour être le premier au hall et vendre plus cher. Tout ça, c'est absolument passionnant. Et c'est né où ? Principalement à Saint-Denis, à Stein, des communes que l'on n'imagine pas être des communes en avance sur des sujets agricoles. Et aujourd'hui, on a réussi, avec le concours de la ville de Saint-Denis, à sauver cette histoire de maraîchage, à la rendre visible et surtout à la démontrer grâce à un prêt inédit des collections de la ville de la Courneuve qui avait des collections incroyables. Et tout ça est mis en scène, mis en œuvre, avec une filmographie inédite aussi parce que la famille Kersanté, à qui nous avons succédé, avait filmé ce travail de couche dans les années 40, les années 50. Et donc tout ça permet au public d'abord de ces banlieues, de le découvrir.
Et de découvrir ce qu'était Saint-Denis, voilà. Hein, parce qu'à la fin, en 1860, Saint-Denis fournissait plus de la moitié des légumes de la capitale.
Absolument, ce qu'on appelle la plaine des vertus, voilà. Qui a donné le nom à énormément de variétés très connues, l'oignon des vertus, etc., le chou. Tout ça, c'était des gens qui produisaient pour nourrir tous ceux les ouvriers qui ont construit la capitale au 19e. Hein. Mais on avait ce qu'on appelle les légumes racines, qui étaient produits par des agriculteurs qui étaient en culture légumière, et les légumes feuilles, les légumes plus chers, qui étaient produits par ces fameux maraîchers primeuristes, qui étaient des marais, ça vient du nom du quartier du Marais à Paris, qui étaient en fait sur des beaucoup plus petites surfaces et très intensives. Et
Oui.
Voilà. Et de ça, c'est assez passionnant de découvrir et d'ouvrir ça au pied entre un McDo et les mosquées, et de s'apercevoir qu'au bout de la ligne 13, vous avez un arrêt qui est la basilique de Saint-Denis, qui est vraiment un bijou assez méconnu. Et puis vous avez sur le terminus, à 10 minutes de Saint-Denis Université, une nouvelle ferme qui s'ouvre.
Voilà. Il y a une démarche sociétale, hein, parce que vous installez à Saint-Denis où le taux de chômage des jeunes est autour de 20%. Il y a aussi une démarche qui a du sens au-delà de choix.
Voilà, dans tous nos métiers et dans nos diversifications, que sont les métiers du service avec le paysage, Jardin de Galie, ou surtout les livraisons de fruits au bureau avec Verger de Galie, on a besoin de main-d'œuvre. Or, on n'en trouve plus. et trouver des acteurs et des jeunes qui se passionnent pour la production, arboriculteurs, maraîchers, jardiniers, bah, paradoxalement, dans les grandes métropoles et à Paris, ça devient de plus en plus difficile. Donc on a pensé, et on l'a vécu à Versailles, on l'a vécu à Sartrouville, qu'en se mettant là où il fallait sensibiliser les plus jeunes, on aurait peut-être, dans 5 ans, dans 10 ans, des acteurs passionnés parce qu'ils auraient eu la chance de pouvoir découvrir des lieux qui font lever leur passion.
Que dit notre coach, Gilles Van Orpotten ?
Vous participez clairement de l'agriculture urbaine. Est-ce que vous pensez que le rêve d'une ceinture verte, comme il en existait à une certaine époque, est aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou dans 5 ans ou dans 10 ans, à portée de main, malgré la bétonisation, malgré les JO, malgré la pression foncière, le Grand Paris, etc. Est-ce qu'on peut rêver d'une ceinture verte dans quelques années ?
Alors, on peut rêver d'une ceinture verte au sens londonien, c'est-à-dire d'un espace de loisirs, un espace de service, etc., où on a la capacité à toucher, à voir, à faire, donc à être en contact avec cette nature, à s'immerger dedans. Une ceinture verte alimentaire, dans la théorie de Van Thunen, oui. Très clairement non, puisque on n'a pas la possibilité, on a la chance en France d'avoir des régions limitrophes de la région parisienne qui sont extrêmement fertiles et qui, par une logistique adaptée, s'avère être rentable. La question, c'est de relocaliser en France un certain nombre de productions. La question, c'est de consommer de saison et donc de reproposer à la ceinture régionale française la capacité à produire pour les villes capitales, pour les régions capitales.
Et cela peut prévenir, aider à prévenir des pénuries potentielles.
Absolument. Et nous, notre travail dans ces fermes pédagogiques, c'est d'être un peu lanceur d'alerte sur le fait que finalement, il y a des savoir-faire, il y a du génie français dans les techniques, et surtout, on ne s'enferme pas dans une technique, on présente sur ces lieux à la fois les techniques anciennes, sur couche, et les techniques de demain, hors sol, en hydroponie, et ça montre que finalement, la diversité des techniques et les compétences en France sont au rendez-vous pour refournir une alimentation locale.
Les compétences en France sont au rendez-vous du génie français, des acteurs français passionnés par ces fermes urbaines pédagogiques. Merci Xavier Laureau d'être venu nous présenter l'histoire des fermes de Galie, et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Il est 13h50.
Merci beaucoup.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Transporter jusqu'à 250 kg de marchandises à vélo et presque sans effort, c'est possible. On a la solution, ça s'appelle Cariole. C'est dans un instant avec François Geffrier.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Elisabeth Assayag avec La France Bouge. Comment livrer de lourdes charges de manière écologique ? Ben c'est la question qu'on s'est posée et François Geffrier a trouvé la solution.
Eh oui, une remorque électrique pour vélo, de quoi assurer des livraisons de manière écologique. Eh bien, c'est tout simple hein, et c'est votre solution, François Geffrier.
Oui, modèle pick-up, frigorifique ou style facteur, à chacun sa Cariole, cette remorque électrique pour vélo. Bonjour Gilles Vallier.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Cariole, ça s'écrit K, trait d'union, R, Y, O, L, E. Rassurez-nous, c'est plus simple à utiliser qu'à écrire.
Oui, tout à fait. On peut même le prononcer en anglais carry all.
Et carry là, ça prend tout all, son sens. Ce qui signifie
tout
transporter
carry.
tout, porter tout.
Compris.
Alors, à quoi ça sert ? Pourquoi ce format-là ? Pourquoi cette solution électrique ?
En fait, pourquoi ce format-là ? C'est assez simple, c'est qu'on a voulu donner au vélo, qui est en fait l'outil selon nous de demain dans la ville, c'est un outil qui est rapide sur les petites distances, qui ne pollue pas, qui ne fait pas de bruit, qui est facile à garer. On a voulu lui donner une dimension utilitaire modulable, c'est-à-dire quand il en a besoin, simplement, pouvoir transporter des choses et ainsi se passer de tous ces véhicules utilitaires, ces petits camions, ces camionnettes qui sont dans nos rues et qui en fait contribuent très fortement à la congestion qu'on voit aujourd'hui dans les grandes villes.
Donc 250 kilos, c'est quel genre de marchandises du coup, d'outils qu'on va transporter avec ça ?
Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On a aujourd'hui ciblé, nous, le secteur de la logistique urbaine. Donc là-dedans, on peut retrouver des gens comme La Poste, effectivement, qui vont livrer des courriers ou des colis. Mais on peut aussi retrouver toute la grande distribution qui va livrer vos courses. On est en train de travailler aujourd'hui avec des acteurs du bricolage, donc pour livrer les... Par exemple, vous allez faire vos courses dans une enseigne de bricolage. Vous avez un barbecue, par exemple, qui vous intéresse bien. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident de rentrer avec en métro. Ben là, c'est une solution de livraison simple et peu coûteuse.
Il y a aussi un modèle qui est frigorifique. Donc ça, c'est pour la livraison de produits alimentaires ?
Exactement. Aujourd'hui, on fait surtout de l'alimentaire. On ne se ferme pas éventuellement à travailler aussi dans le pharmaceutique.
Alors, quand on a un vélo et qu'on accroche cette carriole de 250 kilos, on se demande si ça va bien freiner dans une descente. Est-ce qu'il y a des freins ? Enfin, question bête, hein, mais...
Ah, question importante. En fait, le principe est que vous ne sentez jamais cette remorque, quelle que soit la situation. Donc, évidemment, quand vous accélérez, la remorque va accélérer aussi pour ne pas avoir d'effort à faire. Mais quand vous allez freiner, elle va freiner aussi. Et là, on utilise tout simplement les moteurs qui sont dans la remorque comme un frein moteur, ce qui permet en plus de recharger les batteries.
Alors, justement, les batteries, vous dites qu'elles tiennent toute une journée. Comment c'est possible, alors qu'on sait que les voitures électriques, elles, sur autoroute et tout ça, elles font pas plus de 100-150 km.
Alors, c'est possible tout simplement parce qu'on a une quantité de batterie qui est significative, qui est importante par rapport au poids à vide de notre remorque. Les batteries, ça représente quasiment un tiers du poids. Et en fait, tout simplement parce que ce poids-là, c'est pas un handicap pour notre remorque puisqu'on le sent pas derrière le vélo. Donc on a pu vraiment dimensionner les batteries pour avoir un usage quotidien pour des professionnels sans aucun problème.
Que dit notre coach Gilles Van Der Potten ?
J'ai vu sur votre site que le produit allait être disponible bientôt et qu'il y a des précommandes en ce moment.
Oui.
Est-ce que vous allez lancer ce produit, cette carriole, à partir d'un certain nombre de commandes passées ? Comment ça se passe ?
Ça se passe pas tout à fait comme ça. En fait, il est disponible aujourd'hui dans une version vraiment pour les professionnels. Donc, on a parlé de version utilitaire et de version frigorifique. On a commencé la commercialisation depuis la fin d'année 2018. Après 3 années de R&D, voilà, le produit est fiable, le produit est industrialisé. Et donc, certains clients commencent à l'utiliser. Et on a voulu, en début d'année 2019, offrir ce produit dans une version beaucoup plus simple au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette précommande. En fait, c'est pas un nombre minimum de commandes à atteindre. C'est simplement, on fonctionne par lot de production. Donc tous les 2 mois, on lance un lot de production. Et dans ces lots, on va intégrer les précommandes qui sont à un prix vraiment très réduit pour le plus grand nombre, pour les petites entreprises, pour les particuliers.
Et ça coûte combien pour le plus grand nombre ?
Alors,
très très court.
Ça coûte entre 5 000 et 6 000 euros pour la première version.
Merci Gilles Vallier, vous êtes le cofondateur de Carriole, ou Carriole. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à vous Gilles Van Der Potten, notre coach.
Merci.
Je rappelle que vous êtes le directeur de Reporter d'Espoir et de la France des Solutions. François, Justine, demain nous parlerons de l'empreinte écologique des avions et là aussi nous découvrirons des acteurs français qui ont déjà innové.
Merci Elisabeth Assaï, en effet rendez-vous demain à 12h30. Bien sûr la journée n'est pas finie, dans quelques minutes comme tous les jours vous retrouvez Christophe Ondelat. Christophe, vous nous racontez l'histoire de qui aujourd'hui ?
Bonjour Justine.
Bonjour.
On parle toujours de James Dean. Alors j'avais envie de vous raconter sa vie, ça tombe bien, c'est assez court, ça ne dure que 24 ans. La vie de James Dean, dans un instant.
Alors à tout de suite, dès 14h pour Ondelat raconte sur Europe 1.